sommes mardi 25 juin 2024, il est 5h30 en temps universel. Bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui à la présentation d'Annick Salani. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est maintenant libre. Un accord avec les États-Unis met fin à 14 ans de saga judiciaire. Au Mali, arrestation de 10 opposants accusés de complot contre les autorités et de réunions illégales. Au Sénégal, test Covid et masque obligatoire pour les pèlerins à l'aéroport après des décès à la Mecque. En Afrique du Sud, l'ANC condamne les demandes farfelues de postes ministériels de certains partis dans le futur gouvernement de transition en économie, augmentation de la récolte des cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Et puis notre section magazine reviendra sur l'enlèvement du directeur de publication d'un journal d'investigation à Ouagadougou. Les détails dans un instant, mais d'abord le journal. L'un des hommes les plus recherchés du monde, Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a conclu un accord de plaider coupable avec la justice américaine, lui permettant de recouvrer sa liberté après 5 ans de détention au Royaume-Uni. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Julian Assange est libre et a quitté le Royaume-Uni et a quitté la prison de haute sécurité proche de Londres, où il était incarcéré depuis 2019, pour embarquer dans un avion à l'aéroport de Stansted, a précisé l'organisation Wikileaks. Cet Australien de 52 ans doit comparaître demain devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique, désormais visé par une information pénale pour complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Il devrait plaider coupable et être condamné à 62 mois de prison, déjà purgé en détention provisoire à Londres, ce qui lui permet de regagner libre son Australie natale et retrouver sa femme Stella et leurs enfants. Cela met fin à une saga de près de 14 ans. Assange se battait pour ne pas être livré à la justice américaine qui le poursuivait pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté par la police britannique en 2019 après 7 ans passés dans l'ambassade d'Équateur à Londres afin d'éviter son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol qui sera classé sans suite la même année.
Israël pilonne ce mardi la bande de Gaza à l'heure où son premier ministre Benjamin Netanyahou évoque la fin d'une phase intense des combats avec le Hamas palestinien, mais que les craintes d'une nouvelle escalade avec le Hezbollah libanais vont croissante. À Washington, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à propos des efforts pour une trêve à Gaza associée à la libération des otages, mais aussi des tensions au Liban. M. Blinken a souligné l'importance d'éviter une nouvelle escalade et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles israéliennes et libanaises de rentrer chez elles. Les États-Unis ont dévoilé hier le rapport annuel sur le trafic des êtres humains dans le monde qui met l'accent sur le rôle des technologies. Plusieurs pays sont récompensés pour leurs efforts, comme l'Afrique du Sud, mais d'autres, tels que Brunei, sont réprimandés. Mohamedou Oumfa.
Le gouvernement sud-africain ne respecte pas entièrement les normes minimales pour l'élimination de la traite des êtres humains, mais il déploie des efforts significatifs pour y parvenir, tout comme l'Algérie et l'Égypte, souligne le rapport qui fait glisser ces pays à une catégorie supérieure. À l'opposé, le sultanat de Brunei, membre de l'ASEAN, est rétrogradé dans la catégorie des pays au niveau 3, c'est-à-dire qui ne font pas assez pour lutter contre la traite des êtres humains. Parmi les pays sur la liste noire, 13 sont aussi accusés de se livrer directement au trafic d'êtres humains dans le Soudan du Sud et le Soudan. Dans cette édition, les États-Unis examinent en particulier le rôle croissant de la technologie numérique dans la traite des êtres humains, a révélé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en présentant le rapport qui porte sur 188 pays, dont les États-Unis. Il cite en particulier les trafiquants qui ciblent et recrutent des victimes en ligne par le biais des réseaux sociaux, des applications de rencontres et des plateformes de jeux et effectuent des transactions financières dans des crypto-monnaies opaques.
Ici même aux États-Unis, jeudi prochain à Atlanta, dans l'État de Géorgie, l'ancien président Donald Trump va se mesurer à Joe Biden, l'actuel président, lors d'un débat télévisé 4 mois avant que les deux hommes ne s'affrontent à nouveau dans les urnes dans une redite de 2020. pas de public, micro coupé pour éviter les invectives. La chaîne CNN, qui accueille jeudi le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump, veut éviter le chaos du précédent duel de 2020 pour ce rendez-vous incontournable à l'impact difficile à prédire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kenya se prépare à une journée de grève nationale et des manifestations contre les projets fiscaux du pouvoir. Nouvelle étape d'un mouvement de contestation inédit mené par la jeunesse et qui a gagné l'ensemble du pays en moins de 2 semaines. Les revendications anti-taxes tournent progressivement à la contestation de la politique du président et les slogans « Ruto must go »,« Ruto doit partir » ont résonné jusque dans les bars le week-end. Le président de la Conférence des évêques catholiques, l'archevêque Maurice Mouatia, a exhorté le gouvernement à ne pas sous-estimer les revendications et à ne pas être dans le déni. En Afrique du Sud, l'ANC majoritaire au Parlement a condamné hier les demandes farfelues et scandaleuses de postes ministériels de certains partis, alors que les tractations sur la composition du futur gouvernement se poursuivent. Le point avec Lionel Gaïma.
Jusque-là, aucune information officielle n'a été dévoilée sur le nombre de portefeuilles qui iront à l'opposition. Selon la presse locale, sur une trentaine de postes de ministères, l'Alliance démocratique en réclame une dizaine, alors que l'ANC n'est prêt à en concéder qu'autour de 5. L'ANC, dans un communiqué, note avec inquiétude que certains partis ont formulé dans les médias des demandes farfelues et scandaleuses des postes ministériels spécifiques. Le président Cyril Ramaphosa, 71 ans, investi pour un second mandat la semaine dernière, doit former un gouvernement de coalition inédit après un cinglant revers de son parti aux dernières législatives. L'ANC au pouvoir a perdu sa majorité absolue au Parlement avec 40% de voix, soit 159 députés sur 400. 10 partis politiques ont signé un accord pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, dont la DA, principal parti d'opposition, qui a 87 députés.
Au Mali, 10 opposants à la junte ont été placés en détention hier à Bamako. Ils sont accusés de complot contre les autorités et de réunions illégales après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Le point avec Michel Joseph.
10 opposants ont été inculpés pour atteinte et complot contre les autorités légales, violation d'un décret présidentiel en tenant une réunion illégale, a déclaré Maître Hyacinthe Koné, un de leurs avocats. Les 11 opposants ont été interpellés le 20 juin. Ils tenaient une rencontre privée à Bamako alors que les activités des partis sont interdites par la junte. Parmi eux, Mohamed Ali Batili, un ancien ministre de la Justice, a été relâché samedi. Les incarcérés sont des présidents de partis et mouvements politiques signataires d'une déclaration publiée le 31 mars appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils. La junte malienne a décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils fin mars 2024 après une présidentielle prévue en février. Depuis, les militaires ont reporté sine die la date de la présidentielle au Mali.
Au Sénégal, les autorités ont mis en place des tests de dépistage volontaire du Covid-19. Elles ont réimposé le port du masque à l'aéroport international à l'arrivée des pèlerins après la mort de nombreux fidèles à la Mecque. Les détails avec Rosine Munezero.
Les autorités sénégalaises soupçonnent qu'un certain nombre de décès sont causés par une maladie à syndrome respiratoire comme le Covid-19, a dit le ministre de la Santé dimanche lors d'une visite à l'aéroport international de Diamandjo, invoquant les décès survenus à la Mecque. « Il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a aussi à faire de la prévention », a dit le ministre. Depuis la fin de la semaine dernière, le port du masque est imposé à l'embarquement des pèlerins. C'est valable pour les passagers voyageant à bord des appareils spécialement affrétés pour le Hajj, mais aussi pour les voyageurs en provenance d'Arabie Saoudite par les vols réguliers. L'Arabie Saoudite a indiqué dimanche que 1301 personnes sont mortes pendant le pèlerinage et que de nombreux fidèles ont entrepris le voyage sans autorisation et qu'ils ont parcouru parfois de longues distances sous des chaleurs extrêmes. À Dakar, le quotidien L'Observateur a fait état de 5 morts parmi les pèlerins sénégalais sur les 12 000 officiellement enregistrés pour faire le Hajj.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, passons aux nouvelles économiques présentées par Mouamadou Oufa.
En Côte d'Ivoire, la récolte de cultures vivrières s'est établie à 22 millions de tonnes en 2023, a révélé le Premier ministre Robert Begré-Mambé le 21 juin dernier. Le stock annoncé affiche une hausse de 1,7 million de tonnes de plus que la production réalisée un an plus tôt, une embellie attribuable aux investissements massifs réalisés dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, selon les autorités. Le Tchad veut renforcer sa coopération avec la Chine dans le numérique. Le ministre tchadien des Communications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration, Boukar Michel, a accordé le lundi 24 juin une audience à Wang Xining, ambassadeur de la Chine au Tchad. Lors des échanges, Boukar Michel a assuré son hôte de la disponibilité de son département à travailler en synergie pour répondre aux attentes des populations tchadiennes en matière d'économie numérique et de communication. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a annoncé dimanche avoir signé un accord sur un projet de 25 millions de dollars américains en vue d'améliorer la résilience et la sécurité alimentaire en Somalie. La FAO a déclaré que ce projet, baptisé Transform, vise à réhabiliter les infrastructures essentielles et à promouvoir une agriculture intelligente face au changement climatique pour les petits exploitants agricoles.
Merci Oufa pour ces dernières nouvelles économiques. Nous vous invitons maintenant à suivre la page sport et nous invitons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Football avec l'Euro 2024, l'Italie arrache sa qualification pour les huitièmes de finale.
Oui, dans un groupe relevé, la championne d'Europe en titre a pris la deuxième place du groupe B derrière l'Espagne grâce à son match nul, un but partout, arraché dans les dernières secondes contre la Croatie de Luka Modric. La Roura s'est imposée 1-0 devant l'Albanie, assurant sa première place avec 3 victoires en 3 matchs. En huitième de finale, l'Italie va affronter la Suisse samedi au stade olympique de Berlin. Ce soir, dénouement attendu dans les poules C et D. Dans la poule D, incapable de trouver le chemin des filets en deux sorties, l'équipe de France doit enfin enclencher la marche avant en attaque face à la Pologne pour s'emparer de la première place du groupe, où le retour de Kylian Mbappé, capitaine, est espéré. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce aux résultats d'hier. Les Pays-Bas sont actuellement premiers du groupe D grâce à la différence de but avant de faire face à l'Autriche. Dans la poule C, rien n'est encore joué. L'Angleterre joue contre la Slovénie et le Danemark affronte la Serbie dans cette poule C.
Ici aux États-Unis, Noah Lyles reste le patron du 100 mètres et envoie un message avant les Jeux Olympiques.
Le champion du monde a remporté avec brio le 100 mètres des sélections olympiques américaines à Eugene, dans l'Oregon. Noah Lyles s'est imposé en 9 secondes 83, égalant son record devant Kenny Bednarek, habituel spécialiste du 200 mètres, et le vice-champion olympique Fred Kerley, tous les trois se qualifiant pour le 100 mètres au JO. Le champion du monde 2019, Christian Coleman, quatrième, est victime de la densité du sprint américain et devra se contenter dans un peu plus d'un mois du relais 4 x 100 mètres à Paris, après avoir déjà manqué les Jeux de Tokyo en 2021 lorsqu'il était suspendu pour manquement à sa localisation antidopage. Lyles doit encore valider sa qualification sur 200 mètres. Les sélections américaines continuent jusqu'au 30 juillet.
En NBA, J.J. Redick, officiellement nommé entraîneur des Los Angeles Lakers.
Les Los Angeles Lakers ont officialisé hier la nomination de J.J. Redick, ancien joueur NBA devenu consultant au poste d'entraîneur de l'équipe californienne. Il succède ainsi à Darvin Ham, limogé après l'élimination de LeBron James et ses camarades au premier tour des playoffs. J.J. Redick, qui a 40 ans aujourd'hui, compte 15 ans de carrière NBA de 2006 à 2021 à Orlando, Milwaukee, les Los Angeles Clippers, Philadelphie, la Nouvelle-Orléans et Dallas, mais aucune expérience d'entraîneur. Consultant sur ESPN depuis 2021, il a lancé cette année un podcast avec LeBron James, star des Lakers depuis 2018, dont l'avenir n'est pas encore tranché.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nani Kalani, toujours en votre compagnie pour votre page magazine. Au Burkina Faso, le directeur de publication du journal d'investigation L'Événement, Serge Atiana Oulon, a été enlevé hier matin à son domicile à Ouagadougou par des hommes en civil se présentant comme des agents de renseignement. Ses ordinateurs et son téléphone ont été saisis selon un membre de la famille. Le journal et plusieurs autres médias sont suspendus pour leur couverture médiatique liée à la junte. Yacouba Ouidraogo, agent à Ouagadougou, Ouézin Louis Olon, journaliste et grand frère de Serge Olon.
Il a été enlevé matinalement à 5h du matin par des individus qui n'ont pas donné leur identité, qui sont repartis avec lui. Et quand j'ai été alerté par son épouse, je me suis dépêché sur les lieux. Malheureusement, quand c'est arrivé, c'était trop tard, il est parti.
Est-ce que vous avez du nouveau depuis qu'il a été enlevé?
Quelques minutes après son enlèvement, moi j'ai reçu un appel et quand j'ai pris, c'était lui, mais c'était pas son téléphone à lui, où il demandait de dire à sa femme de mettre à disposition son téléphone et son ordinateur parce que ses ravisseurs veulent ça. J'ai passé le téléphone à son épouse qui était avec moi déjà. Elle est repartie chez elle parce que moi je l'avais amené avec moi. Ils m'ont rappelé et c'est Serge encore qui était en nous qui dit que c'est urgent, il faut remettre le téléphone et l'ordinateur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais on remet le téléphone. Un monsieur qui a pris le téléphone, il menaçait de m'embarquer en même temps que lui. Quelques minutes après, l'épouse est revenue à la maison en larmes en disant que voilà, ils sont arrivés, ils ont tapé, elle a demandé c'est qui. Ils ont dit que c'est les ravisseurs, ceux qui sont venus le matin l'enlever, qui étaient là. J'ai dit, mais vous n'avez pas d'identité. Ils ont dit non, que nous sommes vos collègues. Soit dit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. On ne sait pas où ils l'ont amené.
Il est le directeur de publication du journal L'Événement qui a été suspendu pour une enquête qu'il mène. Est-ce qu'il y a un lien?
On peut dire que c'est possible qu'il y ait un lien, mais moi je me dis sur le plan administratif, s'il y a déjà eu une structure comme le Conseil supérieur de la communication qui l'a entendu, qui a sanctionné, bon, je ne suis pas en train de comprendre pourquoi encore on vient le chercher, mais le contexte n'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à être arrêté, il y a eu plusieurs arrestations, mais soit dit en passant qu'il est le premier journaliste à être officiellement arrêté. Pourquoi, on ne sait pas, mais évidemment, l'événement était un peu, on va dire, le dernier rempart aujourd'hui, vu le contexte où beaucoup de journaux sont devenus muets. Je sais aussi qu'il a été entendu au Conseil supérieur de la communication pour la sanction qui avait été prise. Est-ce que c'est une suite de cet article? Est-ce qu'on lui cherche d'autres choses? Pourquoi on recherche son ordinateur et son portable? Est-ce qu'il va être enrôlé comme tout le monde?
On le connaît pour ses points de vue souvent tranchés. Est-ce qu'il évoquait des craintes par rapport à sa sécurité avec vous qui êtes son grand-père?
On échangeait et je lui disais, bon, je ne peux pas le décourager dans ce qu'il fait comme métier, mais l'étau se resserre. Il ne faut pas que ça se fasse, que ça lui arrive. Ça, on en a parlé.
Quel est le climat des médias aujourd'hui au Burkina Faso?
Les journalistes sont comme égaux. Je lis des tests sur les confrères. Je lis des tests sur les responsables des médias. Je sens une sympathie d'une population qui, en fait, veut juste lire des journaux, veut juste suivre une presse. On en a la fierté de présenter par le passé les médias burkinabés, leur professionnalisme, la qualité des hommes et des femmes. Et je ne pense pas qu'on ait perdu en qualité. Mais on est en train de muser cette presse-là.
C'était Ouézin Louis Oulon, journaliste et grand frère de Serge Oulon, directeur de publication du journal d'investigation L'Événement.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Tchad, les autorités ont démantelé un réseau de présumés arnaqueurs des diplômés sans emploi au titre de la fonction publique. Ce groupe monte des arrêtés d'intégration avec l'en-tête du dit ministère qui veulent trouver un emploi dans la fonction publique. L'un des cerveaux présumés de ces réseaux a été appréhendé et présenté au public. André Kodmadingar, correspondant de la VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Ce monsieur usurpe les titres de la fonction publique. Il a fait un arrêté sur lequel il y a à peu près 100 quelques noms. Et il exige 500 000, 600 000, 700 000. Malheureusement, les gens aussi continuent par venir.
Abdoulaye Mboudoumbami, ministre en charge de la fonction publique, il informe que ce suspect ne s'arrête pas là.
Il a même élaboré un arrêté qui s'est fait nommer lui-même conseiller du ministre du Commerce. Le phénomène d'arnaque ne se pose pas seulement à la fonction publique, mais dans tous les arcanes de l'administration publique. Et j'attire l'attention de la population de manière globale de ne plus croire à des appels qui leur arrivent de gauche à droite.
Selon le ministre, 6 autres complices présumés ont été interpellés et transférés à la maison d'arrêt de N'Djamena. Une victime qui a voulu garder l'anonymat témoigne.
Pour l'intégration, entre-temps, je ne connaissais rien. Ils m'ont demandé de leur donner 300 000 francs et qu'après, mon nom va sortir. Je les ai avancés les 300 000 et ils m'ont dit que je ne dois pas mettre l'argent dans la banque. Il faut que je le donne en cash. Je les ai remis en cash, je les ai entendus, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu mon nom.
Richard, un jeune diplômé, a failli tomber dans le piège s'il n'avait pas été vigilant.
Je me rappelle une fois, on était ensemble avec les amis autour d'un pot, j'ai reçu un appel. Le type m'a dit qu'il travaille à la fonction publique et que j'ai mon dossier là devant lui. Il faut que je fasse un geste et il va faire visser mon nom pour que mon intégration puisse sortir. J'ai dit, d'ailleurs, de toute façon, tu m'as appelé, ce n'est pas mon nom d'état civil. Hein. Mais depuis que je suis sorti à l'université, je n'ai pas déposé un bout de papier à la fonction publique, vu qu'il y a tellement d'arnaques, il faut donner l'argent pour être intégré, tout ça. Moi, je me suis désintéressé la chose. Il dit, si tu as un 50 000, ça peut faire affaire. J'ai dit, je n'ai pas 50 000. Il dit, tu en as combien? J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour te donner. Il dit, tu vas me rappeler le lendemain. Il ne m'a pas rappelé, j'ai attendu 2 jours après, je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu ne m'intègres plus à la fonction publique. Il dit, mais moi, je ne suis pas de bonne volonté, comment il peut m'aider? J'ai dit, non, non, vous, là, on vous connaît, vous êtes des arnaqueurs, vous prenez l'argent avec les gens, après vous disparaissez, vous changez de numéro, parce que là, mais moi, tu ne peux pas me voir. Titi Tami, je vais te faire arrêter, tout ça, là. Il a disparu ce numéro-là, après, quand je cherche à le contacter, ça ne passe plus.
Selon lui, l'arnaque pour entrer à la fonction publique ne date pas d'aujourd'hui.
C'est un groupe bien constitué qui existe depuis au temps de Maréchal, quand on parlait même de la porte 7, tout ça, là. C'est depuis là-bas, ils prenaient l'argent avec les gens. Et il faut reconnaître que la chose est partie même du ministère, hein. C'est un technicien du ministère, là, c'est eux-mêmes qui fabriquent ce truc.
Abdoulaye Mboudoumbami, ministre de la fonction publique, en est conscient.
En plus de ceux qui agissent en dehors de la fonction publique, nous avons aussi suspendu 5 agents suspects. Sur dénonciation, nous les avons suspendus. Nous les avons mis à la disposition de la commission administrative paritaire qui va statuer et ils seront mis aussi à la disposition de la justice.
Empêchés par les autorités d'organiser une marche ce week-end pour exiger leur intégration à la fonction publique, les lauréats des écoles normales supérieures ont décidé d'observer une grève de faim à partir de ce lundi avec sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la fonction publique. André Kordoumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
À présent, cap sur le Gabon où une foire aux poissons à Libreville suscite des réactions mitigées. Au Gabon, 120 tonnes de poissons sont en vente à bas prix à Libreville. Initiative du gouvernement pour soulager les ménages à faible revenu. Mais l'enthousiasme est vite retombé devant la qualité des poissons proposés sur les sites de distribution. Des produits de mer jugés trop petits et pas frais, selon des milliers de clients sortis très tôt ce week-end pour profiter d'une aubaine annoncée. Les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Au centre de pêche artisanale de Libreville, une foule est au rendez-vous depuis les premières heures de la matinée. De longues files d'attente pour un événement longtemps annoncé. Les clients à bout de nerfs piaffent d'impatience.
On vient nous faire comprendre qu'on doit entendre une autorité qui doit venir faire un discours, je ne sais pas, d'ouverture ou quoi. Alors que les gens sont là, ils sont venus acheter du poisson justement, comme c'était dit. Il y a des mamans qui sont là, elles sont assises à même le sol, vous voyez. Hein? C'est comme une humiliation, on humilie le peuple comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quand est-ce que dans ce pays, on va changer, réellement? Quand on parle de changer, on parle de restauration, ce n'est pas ça la restauration.
800 francs CFA, soit plus d'un dollar le kilogramme de poisson. D'ordinaire, ils se vendent 1000 et 2000 francs CFA au marché. De quoi susciter des bousculades, mais cette foire aux poissons va très vite se transformer en désillusion pour certains clients comme Mopiga.
Il faut d'abord sensibiliser la population, choisir les mamans âgées, mettez-les de côté, les servir d'abord avant. Est-ce que ce qui se passe, une maman tombe pour un kilo de poisson de 800, est-ce que c'est normal? Je ne m'attendais pas à ça. C'est de la sardine et la sardine, elle n'est même pas fraîche, en fait, dessus.
Dans cette ambiance tendue, ceux des ménages qui ont fait le choix des plats du jour à base des produits de mer ont dû se jouer des coudes entre les étals. Pour Gervais, la patience a fini par payer.
Là, j'ai pris 10 kilos.
Ça suffit pour la journée ou pour quelques jours?
Je n'ai pas de choix parce que la demande est importante, tout le monde va avoir quelque chose. Je vais me contenter de ça, sinon je voulais prendre un peu plus.
En réponse aux critiques des populations, le gouvernement promet une amélioration de la qualité de l'offre. Sidoine Akoumou, directeur de cabinet du ministre gabonais de la pêche.
Nous sommes dans un processus de pêche exploratoire qui nous permet d'évaluer le potentiel halieutique du pays. La zone qui a été choisie nous a donné beaucoup plus. On a eu près de 35% de la sardinette et les 35% sont des espèces. Et nous avons les bateaux qui sont répartis en mer là et qui vont étendre leur zone d'exploitation. Et nous allons voir beaucoup, la prochaine fois, plusieurs autres espèces qui vont agrandir l'offre sur le marché.
De la vie générale, cette première expérience de promotion du potentiel halieutique du Gabon sous l'ère de la transition enregistre un succès mitigé. Les autorités envisagent dès les prochains mois une nouvelle foire aux poissons ouverte au reste du pays. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Terminons notre section magazine avec le premier des deux débats présidentiels ici aux États-Unis qui aura lieu jeudi à Atlanta dans l'État de Géorgie. La rhétorique des candidats sur des sujets sensibles tels que l'immigration et la condamnation de l'ancien président Donald Trump échauffe déjà les esprits. Des détails avec Véronica Balderas Iglesias. Le récit est de Rosine Munezero.
Les Américains doivent attendre jeudi pendant le débat télévisé pour savoir si la condamnation pénale de Donald Trump sera utilisée comme ligne d'attaque par son adversaire démocrate, le président Joe Biden. Mitch Landrieu, co-président de la campagne de réélection de Joe Biden.
Mais il ne s'agit pas seulement de qualifier Donald Trump de criminel, cela touche à son comportement et à son caractère. N'oubliez pas qu'il a fait faillite 6 fois. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un mauvais homme d'affaires, cela signifie qu'il a trompé toutes les personnes qui comptaient sur lui pour gagner leur vie.
Trump nie ses accusations. Il a également promis de faire appel. Alors que Joe Biden se prépare à huis clos pour ce débat présidentiel, Donald Trump a choisi de partir en campagne ce week-end. Il a fait des apparitions à Washington et à Philadelphie. Il n'a pas caché son impatience de débattre et a parfois demandé l'avis de ses partisans sur la façon dont il devrait se comporter face à Biden. Donald Trump, candidat républicain à la présidence.
Dois-je être dur et méchant et dire que vous êtes le pire président de l'histoire ou dois-je être gentil et calme et le laisser parler?
And let him speak.
50-50, être dur.
Le présumé candidat républicain a aussi profité du rassemblement de samedi pour rappeler aux électeurs sa position sur les immigrés sans papier, Donald Trump.
Et dès le premier jour, nous commencerons la plus grande opération d'expulsion nationale de l'histoire américaine. Nous n'avons pas le choix.
We have no choice.
Monsieur Biden a récemment mis en place des restrictions en matière de traitement des demandes d'asile à la frontière sud. Mais il a également dévoilé la semaine dernière une mesure qui ouvrirait la voie de la citoyenneté aux conjoints sans papier de citoyens américains. Lors de son apparition sur NBC, le coprésident de la campagne de Joe Biden a accusé Trump et les républicains pour le statu quo. Mitch Landrieu, coprésident de la campagne Biden-Harris.
La frontière est en difficulté et c'est le cas depuis 20 ou 30 ans. Dès le premier jour, Joe Biden a envoyé au Congrès une proposition des réformes globales de l'immigration. Ils n'en ont rien fait.
Outre l'immigration, on s'attend à ce que Biden et Trump répondent à des questions sur plusieurs autres sujets épineux lors du premier débat présidentiel qui sera organisé le 27 juin à Atlanta.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au micro, Nanit Kalani. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnou. À la technique, Kelvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus d'informations 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.